Konferenzen, Enregistrementer zu aktuellen Themen.
Radio 100,7.
Sehr geehrter Herr Parlamentspräsident, Monsieur le Ministre d'État, sehr geehrte Abgeordnete, Monsieur le Chef de Cabinet, sehr geehrte Vertreter der verschiedenen Einrichtungen und Organisationen, chers représentants des différentes organisations, institutions, sehr geehrte Damen und Herren, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités. Es ist mir heute eine große Freude, Sie heute im Triangel begrüßen zu dürfen. Wir werden heute sprechen über den Standort Luxemburg, über die wirtschaftliche Entwicklung Luxemburgs, über die Herausforderungen, die Luxemburg im Augenblick hat. Und als Gemeinde St. Vith haben wir natürlich ein vitales Interesse an der Entwicklung des Großherzogtums. Ich möchte das am Ende einer kurzen PowerPoint-Präsentation mit einer Zahl untermauern. Zunächst aber möchte ich Ihnen unsere Gemeinde St. Vith einmal ganz kurz vorstellen. Und da bitte ich dann jetzt, je vous prie, de faire passer les slides. Donc, on passe au premier slide, c'est une carte de la ville ou de la commune. Da sehen wir also die Gemeinde St. Vith mit 9.851 Einwohnern. Wir sind eine sogenannte Flächengemeinde mit 147 Quadratkilometern Fläche. Wir haben 28 Dörfer und wir haben ein Wegenetz von sage und schreibe 552 Kilometern, was natürlich unterhalten werden will. Et alors on passe au slide suivant. Dort habe ich einige Bilder aufgeführt. Zunächst haben wir ein Bild links oben. Das ist aus der Luft geschossen worden. Das ist gemacht worden am 24. Dezember 1944, also am Tag vor der kompletten Zerstörung von St. Vith. Und dann haben wir unten rechts ein Bild, wie St. Vith nach der Bombardierung im Schnee ausgesehen hat. Und auf dem nächsten Slide, donc le slide suivant, on voit encore une fois la reconstruction. On voit donc, wirklich in der Mitte sieht man klar und deutlich, dass die Stadt nicht mehr besteht. Und oben die weißen Häuser, das sind die Behelfsheime, die ab 1947 aufgebaut wurden. Et alors le slide suivant. Hier sehen wir St. Vith, so wie es heute wirklich bei gutem Wetter erstrahlt. Eine Stadt, auf die wir wirklich stolz sind. Dann le slide suivant. Dort haben wir noch einmal das Wahrzeichen der Stadt, so wie es nach der Zerstörung aussah und dann so wie es heute aussieht. Viele Menschen haben in den letzten 75 Jahren am Aufbau der Gemeinde mitgearbeitet und sind heute auch noch sehr aktiv an der Entwicklung der Gemeinde, unserer Gemeinde beteiligt. Und das ist zurückzuführen auf sehr, sehr viele verschiedene Akteure. Und so ist die Gemeinde zu dem geworden, was wir heute dann hier vorfinden. Zunächst einmal schulden wir das den Lehrkräften und den Schulträgern. Wir haben immerhin 3 Sekundarschulen und 10 Primarschulen in der Gemeinde St. Vith. Und in der Stadt St. Vith haben wir tagsüber 2200 Schüler, die die Stadt also besuchen. Wir sind auch Verwaltungszentrum. Wir haben Ministerien hier angesiedelt. Wir haben beispielsweise eine Zweigstelle des Ministeriums der deutschsprachigen Gemeinschaft. Und das ist unter Federführung unseres Parlamentspräsidenten damals entstanden. Und da sind wir wirklich sehr dankbar. Wir haben das Finanzamt, wir haben ein Friedensgericht und wir haben dieses kulturelle Zentrum, wo wir uns hier befinden. Wir haben aber auch eine Klinik, die Klinik St. Josef, und auch ein Seniorenheim, wo die älteren Menschen dann in der Nähe untergebracht werden können. Wichtig ist aber auch, le slide suivant, wichtig sind aber auch die Restaurants, die Hotels und der Tourismus. Wenn wir uns die Restaurants beispielsweise anschauen, so haben wir praktisch alle Kategorien an Angeboten, die wir hier vorfinden können. Wir haben sogar 2 Sterneköche hier auf dem Gebiet der Gemeinde St. Vith. Wir haben 31.924 Ankünfte im Jahr 2019 gehabt. Und wir hatten 67.830 Übernachtungen insgesamt in der Gemeinde im Jahre 2019. Dies ist vor allen Dingen auch darauf zurückzuführen, dass wir den Radwandertourismus haben. seitdem die Fennbahn durchgehend geöffnet ist, kann man wirklich feststellen, dass sehr viele Hotels auch im Sommer und in den Sommermonaten und auch darüber hinaus praktisch voll belegt sind. Also da sieht man schon, dass auch der Tourismus wirklich ein wesentlicher Teil der Entwicklung hier in der Gemeinde St. Veit und im Stadtzentrum ausmacht. Dann sind wir auch die Stadt des Einzelhandels und des Verkaufs. Wir haben also 150 bis 200 kleine Geschäfte hier alleine in St. Veit selbst. Wir sind Wirtschaftsstandort mit 140 Hektar Industriezone und auch noch mit so 100 Betrieben, die in der Landwirtschaft tätig sind. Wir haben spezialisierte Betriebe, hochspezialisierte Betriebe, wie beispielsweise Puratos oder auch dann die Farbwerke Hercula oder auch Sägereien wie beispielsweise Pauls oder Hoffmann. Und all diese Menschen haben in den letzten Jahrzehnten dazu beigetragen, dass St. Veit 2016 zur dynamischsten Stadt der wallonischen Region auserkoren werden konnte. Das wurde alles ermittelt anhand von wissenschaftlichen Untersuchungen der Universität Lüttich. Also da hat es dann schon mit Fakten, die untersucht wurden. In St. Veit haben wir 463 Arbeitgeber und 4.051 Arbeitnehmer. Von diesen 4.051 Arbeitnehmern haben wir sage und schreibe 1.600 Grenzgänger. Das ist eine Zahl, denke ich, von vor einem Monat. Und da versteht man, wenn man Grenzgänger sagt, natürlich Luxemburg und Großherzogtum Luxemburg. Und das ist eigentlich die Zahl, die ich heute Abend nennen wollte und die wirklich auch vielleicht diese Vortragsreihe hier in St. Veit rechtfertigt. Die wirtschaftliche Entwicklung des Großherzogtums liegt uns also wirklich besonders am Herzen. Ohne Luxemburg würde St. Veit ganz anders aussehen. Das muss man so klar und deutlich sagen. Ich habe es eben auch mal ausgedrückt, wenn Luxemburg hustet oder den Schnupfen hat, dann haben wir in St. Veit die Lungenentzündung. Um es mal bildlich dann auszudrücken, 40% der Arbeitnehmer, die arbeiten in Luxemburg, die wohnen in Belgien, die geben Geld in Belgien aus, die zahlen Steuern in Belgien. Und ich denke, das ist schon ein sehr wichtiges Element und rechtfertigt auch, warum wir heute Abend diese Veranstaltung hier machen, nämlich um uns mit dem Standort Luxemburg insgesamt auseinanderzusetzen. Vielen Dank noch einmal. Dann denke ich, kann ich das Wort auch schon an den nächsten Redner geben, an Herrn Hüssen.
Sehr geehrte Herren Minister, sehr geehrte Herren Präsidenten, sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren Bürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Freunde und Mitglieder des Europäischen Arbeitskreises Pierre Werner. Ich möchte zunächst Herrn Herbert Gomez, Bürgermeister von St. Veit, sowie dem Gemeindekollegium St. Veit meinen Dank aussprechen, dass Sie uns heute Abend in Ihrer Stadt willkommen heißen. Es ist das erste Mal, dass der Europäische Arbeitskreis Pierre Werner eine Veranstaltung in der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und in der Provinz Lüttich organisiert. Heute ist somit ein historischer Tag für unseren Arbeitskreis. Vor einigen Jahren, als Josef Maret, der auch heute Abend hier anwesend ist, Ministerpräsident der deutschsprachigen Gemeinschaft war, hatte er bereits verstanden, dass die Grenzgänger nach Luxemburg einen wirtschaftlichen Einfluss haben. Und hatte gehofft, die deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens an den Aktionen des Europäischen Arbeitskreises Pierre Werner teilhaben zu lassen. Er hat verstanden, dass die luxemburgische Wirtschaft eine bedeutende Rolle für die deutschsprachige Region im Laufe der Jahre spielen würde. Zu dieser Zeit gab es nur knapp 3.000 Grenzgänger in Ostbelgien. Seit damals ist die Zahl der Grenzgänger stark angestiegen. Am 31. März 2020 lag die Zahl in der deutschsprachigen Region bei 4.480, was 51 der Grenzgänger in der Provinz Lüttich bzw. 9% in ganz Belgien entspricht. Zählt man mal Medi und Weismes dazu, liegt die Zahl bei 5.270, was 60 der Grenzgänger in der Provinz Lüttich entspricht. Die Provinzen Luxemburg und Lüttich zählen zusammen 45.280 Grenzgänger, was 91,6% der Gesamtzahl belgischer Grenzgänger entspricht, die sich am 31. März 2020 auf 49.440 erhöht hat. Es ist somit sehr wichtig für die wallonische Wirtschaft. Und wir verstehen nicht, warum die Bedeutung der luxemburgischen Arbeitgeber, die fast 50.000 Belgier die Möglichkeit geben, eine Stelle in Luxemburg zu finden, weiterhin in der wallonischen Region zu leben und dort die Früchte ihrer Arbeit zu genießen, im Marshallplan von Wallonien keine Berücksichtigung findet. Die Kaufkraft dieser Grenzgänger wird auf ungefähr 3 Milliarden Euro geschätzt, somit mehr als 300 Millionen Euro in der deutschsprachigen Region. Ein wahres Geschenk für ihre Region. Was wären die Provinz Luxemburg und die deutschsprachige Region, wenn das benachbarte Großherzog nicht diese treibende wirtschaftliche Kraft seit so vielen Jahren wäre? Ich lasse Sie auf diese Frage antworten. Die Bedeutung der Grenzgänger in Belgien, sowohl in der Provinz Luxemburg als auch in der deutschsprachigen Gemeinschaft, Sankt-Wicht und Burgholein zählen zusammen mehr als 2.600 Grenzgänger. In Frankreich, im tiefen Norden Lothringens und in Deutschland, in der Region von Trier und Bitburg in der Eifel, lässt seit 2 Jahren den Schluss zu, dass wir in diesen Regionen, in der Banlieue von Luxemburg bzw. in dem Groß-Luxemburg sind. Unser Vizepräsident Charles-Ferdinand Nothomb, belgischer Staatsminister, stellt Ihnen gleich seine Vision von diesem Wirtschaftsraum des großen Luxemburgs und wie kann diesem in Zukunft besser mit den Behörden des Großherzogtums organisiert kann vor. Ein gemeinsames Schicksal. Utopisch, wir finden nicht, denn diese Regionen sind eng miteinander verbunden und müssen angesichts der Herausforderungen von morgen noch kooperativer und vereinander werden. Letzte Woche in Frankreich war ich überrascht von der Überlegung an Hidalgos und Edouard Philips, die die Schaffung einer Hauptregion, die von Paris bis nach Rouen und Le Havre reicht, nicht ablehnten. Ein Gebiet, das noch viel größer als die einfache Pariser Banlieue ist. Alors, je vais continuer en français et je vais donner quelques données de contexte pour avancer dans le cadre de cette soirée. L'évolution de la population au Luxembourg. Vous avez là les chiffres de 1981 à 2020, mais il faut savoir que de 1961 à 2020, la population luxembourgeoise a doublé. Elle est passée en gros de 315 000 habitants à aujourd'hui à près de 630 000. Il faut aussi remarquer que le taux des étrangers, il était de 13% en 1961. Il est passé à 36% en 2000 et aujourd'hui, il tourne autour de 47%. Autant dire que dans les années qui viennent, on risque de franchir le cap des 50%. Mais si la population du Luxembourg tend d'ici 2030 à atteindre 800 000 habitants, alors elle aura doublé en moins de 40 ans. Au niveau des frontaliers, ce qu'on peut constater, c'est que les projections de population montrent que du côté allemand, je dirais, le Luxembourg aura moins de chances d'avoir, je dirais, un certain nombre de frontaliers. Côté français, ça commence à être tendu également. Le Luxembourg a bien sûr sa population qui augmente, mais la Belgique a une carte à jouer. La carte à jouer, elle se trouve en province de Luxembourg, arrondissement de Bastogne et de Neuchâtel notamment, mais également dans l'Ausbelgien. Alors, si on regarde les projections de population active, là, on voit que les Länder allemands, je dirais, sont très tendus. Et pour le moins, la démographie en Sarre, elle diminue. Donc la population va diminuer et les Länder allemands, je dirais, vont pouvoir contribuer dans une moindre mesure que jusque maintenant. Par contre, en France, ça commence à être tendu également, surtout Meurthe et Moselle, qui fournit à peu près 80% des frontaliers français. La province de Luxembourg et, je dirais ici, la région, ben, je dirais, a une carte à jouer. C'est ce que nous avons fait remarquer au ministre Belot l'année dernière lorsqu'il est venu à Aubange, c'est qu'il est important, si on veut justement que des frontaliers viennent de la province de Liège, de Namur et continuent à venir de la province de Luxembourg, il est important d'avoir des axes routiers, mais aussi des lignes de chemin de fer performantes avec du matériel moderne et, je dirais, un respect des horaires. Ligne de Liège, trois ponts Luxembourg, Liège de Namur vers Luxembourg et dans le sud aussi de Virton vers Luxembourg. L'évolution des frontaliers. Il faut savoir que jusqu'en 1985, les frontaliers belges étaient le groupe le plus important. À l'époque, il y avait au total 18 200 frontaliers. Aujourd'hui, il y en a 11 fois plus. Il y avait 7 800 frontaliers belges. Il y en avait presque autant de Français et un peu moins, bien sûr, d'Allemands. Depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui, le nombre de frontaliers français a, on peut dire, explosé, vu qu'aujourd'hui, il y a 105 000 frontaliers français qui viennent, comme j'ai dit, à 80% de Moselle et de Meurthe et Moselle. Alors, peut-être une petite considération en termes de projection. On estime que d'ici 2030, le nombre de frontaliers pourrait augmenter encore de 80 000 unités. Donc, on pourrait atteindre 280 000 frontaliers, alors qu'aujourd'hui, on est à 200 000. Il y a eu un petit accroche cette année. C'est clair que le nombre est quasi en augmentation constante. Mais au mois d'avril, l'effet Covid-19 a entraîné une chute de 4 500 frontaliers. On est passé de 206 000 à 201 500. Et l'économie repartant, on arrive, je dirais, côté emploi, à retendre aux chiffres d'avant le confinement. Mais il reste des secteurs qui sont fortement touchés, comme la culture, le secteur horeca et le secteur événementiel. Alors, si on regarde l'évolution dans les provinces, je voulais juger, comme j'en ai parlé tantôt, de l'évolution et de l'importance de la province de Luxembourg, mais aussi la province de Liège, vu qu'à elles deux, elles totalisent presque 92% du total des frontaliers. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'il y a des frontaliers partout en Belgique. Il y en a aussi bien en Flandre, même Bardewever a 150 frontaliers qui travaillent à Luxembourg. Alors, quel est le constat? Le baromètre, vous allez me dire, est au beau fixe. Mais oui, le Luxembourg est triple A, est coté triple A par 4 agences de notation. C'est un record par rapport aux autres pays de l'économie européenne. Sa population est à la hausse, comme on l'a vu, et les perspectives de croissance sont bonnes. Il y a 38 000 entreprises, en gros, à Luxembourg, dont 42% se situent à Luxembourg et les environs. La place financière de Luxembourg est la 12e place mondiale. Elle a gagné 6 places en un an. Et en matière de fonds d'investissement, c'est la 2e place mondiale. Donc vous allez me dire, tout est au beau fixe. Mais demain, dans les 10 ans qui viennent, comment vont évoluer les autres économies européennes? Nous constatons qu'il y a un certain nombre de tensions géopolitiques. On constate aussi un hyper-endettement des économies, et encore accentué par la crise du Covid-19. On peut constater que les taux d'épargne sont nuls, et qu'on parle même d'intérêts négatifs. Et ces incertitudes ont poussé et se traduisent par une hausse des métaux précieux. Regardons l'or. Dans les années 80, il était à 2500 euros le kilo. En 2008, avec la crise du subprime, il est monté dans les 35-40 000 euros. Aujourd'hui, le kilo d'or est entre 50 et 55 000. On a battu le record, un record historique au cours du printemps. On a dépassé les 55 000 euros le kilo. Et certes, Keynes disait que c'est une drôlique barbare, mais en fait, ça témoigne quand même d'une incertitude. Alors, on parle de robotisation, on parle d'informatisation. Donc ce sera fort intéressant, je pense, d'avoir autour de la table l'avis à la fois de la FEDIL, donc des entreprises luxembourgeoises, mais aussi de la Chambre de commerce pour voir leur vision et voir les tensions que ça pourrait connaître. Le PIB, on va dire, du Luxembourg n'a baissé que de 8%. On dit il n'a baissé que de 8% parce que les autres pays voisins ont augmenté, ont baissé de 10, voire de 12%. Donc, je pense que nous aurons une soirée agréable. Et je passe donc la parole à Jean-Marc Lambotte, donc de l'EPUR Université de Liège, qui va donc vous exposer. Donc, Wallonie-Bruxelles, d'importants différentiels d'attractivité pour l'économie productive et présentielle. Voilà, je vous remercie.
Bonjour. Donc, je vais vous parler des différentiels, non pas entre Wallonie et Bruxelles, mais entre Wallonie et le Luxembourg, bien entendu, qui est le sujet d'aujourd'hui. Donc, tout d'abord, on peut passer au slide suivant. En économie, on peut des indicateurs utilisés habituellement, c'est le PIB, et en particulier le PIB par habitant. Voilà, si on prend les derniers chiffres disponibles au niveau d'Eurostat en 2018, on peut regarder comment se répartit au sein de l'Europe ce ratio du PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat par rapport à la moyenne de l'Union européenne. Là où le Grand-Duché de Luxembourg, une fois que le Brexit est passé, donc Londres n'est plus dans le classement. Luxembourg, le Grand-Duché de Luxembourg occupe la première place du classement au niveau des territoires NUTS 2, ce qui correspond globalement dans notre pays aux provinces. Voilà. À côté de cela, vous voyez que les territoires qui environnent le Grand-Duché sont tous situés sous la moyenne européenne, donc ils sont situés en rose ou en mauve, sauf la Sarre, qui est juste située au-delà de cette moyenne européenne. Suivant. Voilà les chiffres exacts donnés par Eurostat. Donc le Luxembourg est à 262% du PIB moyen européen, alors que donc la Sarre est située juste au-delà. Par contre, en Rhénanie-Palatinat, la région de Trèves est à 96%. 96%, c'est presque 100%, mais en fait, dans la partie occidentale, donc l'ex-Allemagne de l'Ouest, cette région-là figure vraiment comme une exception. Il n'y a que deux régions de l'ex-Allemagne de l'Ouest qui sont situées sous les 100%. Et à côté de cela, vous avez en Belgique, où le taux le plus bas qui soit observé au sein de la Belgique, c'est la province de Luxembourg avec 72%, devant le Hainaut et ses 74%. Et vous avez côté français la Lorraine, qui est aussi la deuxième, elle, au sein du territoire français, juste à même hauteur quasi que la Picardie, qui est juste à côté de l'Île-de-France. Donc vous voyez que ces territoires dépendent foncièrement du Luxembourg et que toute l'activité économique de tout cet espace a tendance à se concentrer de plus en plus au sein du Grand-Duché du Luxembourg, avec même des effets de vase communicant. On peut passer à la carte suivante. Au niveau de l'emploi, maintenant, comment se distribue l'emploi au sein du territoire qu'est la grande région? Et là, c'est une carte qui montre le volume d'emploi avec des cercles rouges par commune et les aplats de couleur bleue, c'est le ratio du nombre d'emplois par habitant. Donc on voit très bien cette forte concentration de bleu très vif au sein de beaucoup de communes du Grand-Duché de Luxembourg et qu'à côté de cela, dans un rayon de 30-40 km, le bleu est beaucoup plus faible et il y a beaucoup de taches blanches, c'est-à-dire de taches où l'emploi est très très faible dans beaucoup beaucoup de communes. Voilà, donc ce qui montre vraiment la forte dépendance des territoires qui bordent le Grand-Duché de Luxembourg vis-à-vis du Luxembourg. Alors si on se concentre ici, on a ça vite. Concentrons-nous sur ce qui se passe vraiment dans le nord du Grand-Duché. Ce que vous voyez, il y a beaucoup de communes du nord du Grand-Duché où il y a plus d'emplois que d'habitants. Il y a plusieurs communes comme ça, comme Trois-Vierges, Choisy-Swampac ou Winsoler, qui ont plus d'emplois que d'habitants. Et presque toutes les communes du nord du Grand-Duché sont dans une situation proche des 100%, ce qui est le cas, bien entendu, à Luxembourgville, mais qui est assez significatif quand même. On passe à la diapositive suivante. Qu'en est-il du taux de chômage ? Le taux de chômage est relativement faible au Grand-Duché, de même que dans beaucoup de territoires qui l'environnent, même si ce n'est pas le cas du côté de la Lorraine. Il reste encore de nombreuses poches de zones où il y a de forts taux de chômage. Chez nous, en Wallonie, pour trouver des forts taux de chômage, bien entendu, il faut plutôt aller vers le Hainaut et vers le Sillon, notamment du côté de Liège, de l'agglomération de Liège et de l'agglomération de Verviers, où là, on trouve vraiment encore des poches de chômage très, très importantes. Voilà. À l'échelle de la région wallonne, dia suivante, vous voyez que beaucoup de communes qui sont frontalières avec la frontière ou qui dépendent vraiment au niveau de leurs travailleurs du Grand-Duché, on trouve des taux de chômage parfois faibles, voire très faibles. On est dans une situation, particulièrement ici, dans le canton de Savitt, de quasi, on peut dire, plein emploi, la situation qui se caractérise aussi dans des situations comme dans pas mal de régions en Flandre. Voilà, donc on est dans une situation avec finalement toute la main-d'œuvre qualifiée qui a du boulot et donc des tensions sur les marchés du travail. Et c'est le cas de pas mal de communes aussi de la province du Luxembourg. Sur les 18 communes où le taux de chômage normalisé sur la tranche 15-64 ans est inférieur à 4%, sur ces 18 communes, il y en a 13 qui sont dépendantes du Grand-Duché, je vais dire. Alors, donc, au niveau du PIB, on a dit les territoires qui environnent le Grand-Duché ont un PIB faible, mais en Wallonie, si on regarde, d'un côté, on a un PIB faible, mais nos revenus, en fait, le revenu moyen du Wallon, en fait, n'est pas si mauvais que ça. Donc, on a un mauvais PIB, mais on a plutôt des revenus qui sont clairement dans la moyenne européenne. Au niveau belge, on est à 90% du revenu moyen belge, alors qu'on n'est qu'à 70% du PIB belge, au niveau de la Wallonie. Donc, c'est-à-dire que ce que l'on ne réussit pas à produire comme richesse chez nous, on arrive quand même grandement à le capter en dehors, grâce auprès de 200 000, enfin c'est 180 000 travailleurs qui vont travailler au-delà de nos frontières, bien entendu pour une large partie en Flandre et à Bruxelles, mais c'est aussi les 49 000 travailleurs qui vont chercher du travail au Grand-Duché de Luxembourg et qui ont parfois de hauts revenus, comme on peut voir là du côté du sud de Luxembourg. La carte suivante. Voilà, où toute la région d'Arlon jusque l'église, on trouve là de hauts revenus moyens que l'on rencontre pratiquement que vraiment dans les communes les plus chics de la région wallonne. Voilà, on peut passer à la diapositive suivante concernant maintenant les flux de travail, les flux de travailleurs. Je ne vais pas revenir parce que ça fait redondance avec l'exposé de M. Hussain. Donc, les chiffres sont en croissance et même encore aujourd'hui, malgré la crise du Covid, l'emploi au Grand-Duché de Luxembourg ne chute pas. La petite chute que l'on a connue est déjà en train de s'estomper. Voilà. On peut passer à la dia suivante. Donc, les mêmes chiffres concernant l'emploi des travailleurs frontaliers, leur provenance au niveau de leur lieu de résidence, ici uniquement sur la province de Liège, puisque c'est l'objet particulier de la soirée. Remarquons donc que sur les 8800 travailleurs qui partent travailler au Grand-Duché de Luxembourg, on est pratiquement à parité entre la partie germanophone et la partie francophone, avec ce que l'on constate, outre cette forte présence de germanophones dans les travailleurs frontaliers, c'est que ça a plutôt tendance à s'organiser selon deux axes. L'axe principal, qui est bien entendu celui de l'autoroute E42, suivi après par la nationale 62, je crois, qui descend, qui est suivi après par la N7 et puis la A7 côté luxembourgeois, la Nordstrasse. Et de l'autre côté, c'est la E25, depuis Liège, où il y a plus de 400 personnes qui partent travailler au Grand-Duché de Luxembourg chaque jour, et les autres communes, Chaux-Fontaine, Sprimont et Oye. Voilà. Maintenant, on peut passer à la DIA suivante. Donc, on voit où se concentre l'emploi vu du lieu de résidence. Maintenant, on peut s'intéresser à l'emploi, où se situe l'emploi vu du lieu de travail, au Grand-Duché de Luxembourg, occupé par les travailleurs frontaliers. Donc, vous voyez sur la petite carte en haut à gauche la part de frontaliers dans l'emploi au Grand-Duché de Luxembourg. Donc, vous voyez bien que cet emploi frontalier a tendance à se concentrer massivement près des frontières, même si cette part est quand même de l'ordre de 40% aussi à Luxembourg-Ville. Mais vous voyez que dans le nord du Grand-Duché de Luxembourg, cette part atteint généralement près de 70, voire plus, parfois quasi 90% de l'emploi dans certaines communes du nord du Grand-Duché de Luxembourg. Et ce que vous voyez en bas à gauche, c'est l'emploi qui est occupé par la part de l'emploi qui est occupé par des travailleurs belges qui résident en Belgique. Ils ne sont pas nécessairement belges au niveau de la nationalité. Hein. Il y a une part de luxembourgeois, de portugais, etc., de français. Mais il y a, je dirais, c'est ceux qui résident en Belgique. Et donc, vous voyez que tout le long de la frontière, une bonne partie de l'emploi est occupée par les Belges. On peut passer à la DIA suivante. Quand on s'intéresse maintenant précisément où vont travailler les travailleurs venant du territoire belge, on se rend compte que là, c'est la part de travailleurs dans les travailleurs frontaliers qui vont dans les parts de travailleurs qui vont travailler au Grand-Duché de Luxembourg. Quelle est la proportion qui va travailler dans la ville de Luxembourg? Donc, si cette proportion est de 77% pour les résidents de la ville de Luxembourg, ici, dans l'arrondissement de Verviers, donc en partie dans la communauté germanophone, cette part, elle est inférieure à 15%. Ça veut dire qu'une grande partie des travailleurs qui partent chaque matin ici de la région, de l'arrondissement de Verviers, en fait, ne vont pas nécessairement beaucoup plus loin que les premières communes qui sont frontalières. Donc, ils vont à Trois-Vierges, Weiss-Wampach, Clairvaux, Parc-Otzingen, ou etc., Wiltz. Voilà. Alors, ce que l'on peut en dire par rapport à ça, c'est que l'emploi présent, donc massivement dans le nord du Grand-Duché de Luxembourg, via suivante, est occupé donc en grande partie par des travailleurs frontaliers issus de la province de Liège et de l'arrondissement de Bastogne. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il résulte pour une large part en fait, de transferts d'entreprises depuis la Wallonie. Donc c'est soit on crée une filiale, soit on transfère carrément le siège social ou le siège d'exploitation, et ce, dans de multiples secteurs, à la fois l'industrie, la construction, le transport ou les services aux entreprises. Et ça résulte aussi de la captation du pouvoir d'achat des ménages belges, qu'on pense aux pompes à essence, aux centres commerciaux, aux banques. Vu la situation de quasi-plein emploi autour du Grand-Duché de Luxembourg, même si pour l'instant, avec la crise de Covid, ce n'est plus tout à fait ça, mais structurellement, ça devrait le revenir, vu les perspectives démographiques évoquées tantôt, et ce, de part et d'autre des frontières, on est dans une situation de concurrence vis-à-vis de la captation de la main-d'œuvre formée. Or, le faible différentiel qui existe entre les salaires bruts et les salaires nets au Grand-Duché de Luxembourg est un avantage comparatif puissant pour les entreprises grand-ducales. Or, pour garder ces travailleurs et offrir le salaire voulu, il y a quelques entreprises originaires de nos régions qui migrent chaque année vers le Grand-Duché de Luxembourg. Donc, ce transfert n'est pas un jeu à somme nulle, mais clairement, la Belgique est perdante avec ces évolutions. On peut passer à la diapositive suivante. Maintenant, je me concentre sur quelques petits secteurs. Tout d'abord, faire un focus sur l'économie productive, donc l'économie qui regroupe l'industrie et les services aux entreprises, l'économie qui exporte, celle que l'on essaye de développer à travers le plan Marshall. Juste pour mettre le focus sur le fait qu'il y a une faiblesse généralisée en grande région des dépenses en recherche et développement, et c'est particulièrement le cas, je dirais, au niveau, par exemple, de la province du Luxembourg, ainsi que dans le sud-est de la province de Liège. Peu d'entreprises font de la recherche-développement. Or, on a besoin de ça vraiment pour développer l'activité économique pour les générations futures. D'ailleurs, on constate une faible présence d'entreprises actives dans les 6 pôles de compétitivité wallons, tant en province de Luxembourg que dans le sud-est de la province de Liège. Mais il y a quand même, ici dans notre région, deux domaines d'activité phares pour l'Ardenne du Nord-Est qui restent liés à la valorisation des ressources primaires. Je pense particulièrement à la filière du bois, avec les parcs de Kaiser-Barak, de Burtonville ou de Gouvy, ainsi que, bien entendu, la production d'eau minérale, mais qui est un marché, je dirais, mature, qui n'est pas un marché qui va permettre de progresser fortement au niveau des perspectives économiques. Je passe maintenant à l'économie plus résidentielle, celle qui est basée sur les dépenses faites par les acteurs qui sont situés sur le territoire, et donc notamment la question du commerce et particulièrement des achats frontaliers. Donc une partie tout à fait significative des dépenses des ménages wallons se fait en dehors des frontières de la Wallonie, notamment parce que les prix sont beaucoup plus intéressants de l'autre côté de la frontière. C'est particulièrement le cas ici vis-à-vis du Grand-Duché. Et vous voyez que l'impact de ces achats transfrontaliers est particulièrement fort ici autour de la situation du nord du Grand-Duché de Luxembourg avec les centres commerciaux tels que le centre Maasen Away Swampak ou le Knoof de Schmid. Voilà. Alors, on peut passer au dernier secteur, qui est le secteur du tourisme, qui est un des secteurs qui, pour ici, nous dans l'Ardenne du Nord-Est, qui doit être clairement, qui reste une des voies d'avenir que l'on doit essayer d'entretenir en permanence et de développer. Donc, vous voyez ici le ratio du nombre de nuitées au sein des hébergements touristiques par rapport au nombre d'habitants. Donc vous voyez que tant l'Ardenne que l'Eifel côté allemand et que le Grand-Duché de Luxembourg dans son ensemble, pas uniquement le Sling, donc les Ardennes luxembourgeoises et le Murlurtal, la petite Suisse luxembourgeoise, sont concernés par de forts ratios de nuitées par habitant. C'est bien pour le Luxembourg, mais ça n'empêche que, quand on passe à la dia suivante, une des choses qu'on peut noter, c'est notamment la faiblesse en fait, du marché allemand dans notre situation. Donc, vous voyez qu'en Wallonie, seuls 3,6% de la clientèle qui fait des nuitées provient d'Allemagne. C'est vraiment très faible en comparaison de la proportion de nuitées faites par des Flamands ou des Néerlandais. Or, de grandes concentrations de population existent côté allemand et on n'arrive pas à la capter. Et même au Grand-Duché de Luxembourg, je dirais, cette clientèle allemande, on réussit bien moins à la capter que la clientèle flamande et néerlandaise, même pour le Grand-Duché de Luxembourg. Il y a là, à mon avis, quelque chose qui lui aurait lieu de travailler, sachant que si je prends la sortie, par exemple, Remouchamps de Levatzac, d'où moi je suis originaire, si on fait un rayon de 2 heures voiture, 44% des 32 millions de personnes qui existent dans un rayon de 2 heures voiture sont germanophones. Voilà. Et à côté de ça, on n'a que 3,6% de touristes de nuitées qui sont dues à la population germanophone. Il y a, à mon avis, quelque chose sur lequel il faudrait travailler, avec bien entendu l'aide de la communauté germanophone au niveau touristique. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.
Donc maintenant, je vais passer la parole au ministre d'État, Charles-Ferdinand Othon, qui est vice-président de notre cercle et qui est l'un des membres fondateurs, c'est-à-dire qu'en 1987, 10 ans après avoir réfléchi aux coopérations transfrontalières, notamment avec Pierre Werner, une ASBL de droit luxembourgeois a été créée et il est encore, je dirais, l'un des membres fondateurs. Dans la salle, on a encore un autre membre fondateur du côté belge qui est Paul Jadot. Et du côté luxembourgeois, on a encore Jacques Santerre et Léon de Seuches. Léon de Seuches était l'ancien rédacteur en chef de Luxembourg Gewoont. Je lui passe la parole parce que notre cercle a réalisé l'année dernière des réunions avec les communes belges et luxembourgeoises. Nous avons fait des réunions à Martelange, à Oufalize et à Pétange. On a invité 70 communes en tout. Et on a eu 48 communes qui ont répondu. Nous sommes arrivés à la conclusion que, c'était à Aubange l'année dernière, au mois de novembre, que, je dirais, il y avait un avantage à créer une coopération transfrontalière renforcée, non plus de ville à ville, Aubange avec Pétange, Martelange avec Krombach, et ainsi de suite, qu'il fallait plutôt s'orienter vers une coopération régionale. Et c'est là que nous avons eu l'appui du Benelux, notamment de Alain de Meuser, qui est venu présenter une solution juridique qui est le GBCT, un groupement Benelux de coopération territoriale. Et dans cet esprit-là, nous nous sommes dit qu'il faut créer le Grand Luxembourg. Il faut se mettre autour de la table avec les autorités luxembourgeoises et trouver des solutions ensemble et non pas adopter, je dirais, des positions frontal, comme on l'a vu, je dirais, avec les maires de Metz et de Trèves. Donc nous sommes pour le Grand Luxembourg. Nous estimons que, on l'a montré tantôt sur la carte, que toutes ces régions, dont Saint-Vit, dont Bourg-Croyland, dont les communes frontalières belges en province de Luxembourg, c'est la banlieue de Luxembourg. C'est le Grand Luxembourg. Et dès lors, je dirais, la réflexion menée par le ministre, c'est comment organiser l'espace économique de ce Grand Luxembourg. Et je lui passe la parole.
Merci, Président. Comme je vois que l'heure avance et que je voudrais beaucoup entendre les représentants du secteur privé qui nous suivent, je vais essayer de parler en termes télégraphiques, de faire le message. J'y suis incité parce que ce matin, nous avons été inauguré le 50e anniversaire du plan Werner pour l'Union économique et monétaire. Et il ressort de tout ce qu'on a dit que ce plan avait une vision. Il n'a pas été mis en œuvre immédiatement, mais 30 ans après, on avait la monnaie européenne avec le concours de tous. Nous avons eu des réunions à Aubange, dont sur lesquelles je ne reviendrai pas, où nous avons eu, nous, Cercle Werner, deux exposés extérieurs intéressants, un traditionnel du ministre des Communications de Belgique, mais deux qui étaient innovants, un de du think tank IDEA de la Chambre de commerce, sur lequel j'insisterai aujourd'hui, et l'autre étant des propositions de l'Union économique Benelux, de nouveaux mécanismes plus pragmatiques pour favoriser les coopérations entre communes. Et donc je ne reviens pas sur cette coopération qui est très importante sur des sujets très concrets et dans la proximité. Je m'étendrai alors uniquement sur le plan de IDEA. Alors IDEA, c'est un, donc je ne revendique pas l'idée, je saisis l'idée comme ceux qui ont saisi le plan Werner et qui en ont fait quelque chose 30 ans plus tard. Lui, ce plan venant du secteur privé luxembourgeois parle du co-développement dans l'aire métropolitaine transfrontalière du Luxembourg. Je n'ai pas résumé la brochure, je la recommande à tout un chacun. Que disent-ils? En résumé, ils font un appel au gouvernement luxembourgeois pour dire « prenez la main ». Nous avons eu une période magnifique de développement. tant pour notre pays qui s'est développé magnifiquement, mais qui a aussi développé les régions avoisinantes en les pompant, mais en les enrichissant, si je simplifie. Et ça ne va pas continuer comme ça. Nous n'allons pas doubler notre population et continuer à ne pas avoir un plan d'ensemble sur tous ceux qui vivent avec nous. Alors, le problème est, qui est-ce qui vit avec nous ? Que dit le plan IDEA ? Il dit ceux qui vivent avec nous, l'aire métropolitaine, c'est, calculons la dimension, non pas en termes politico-administratifs, mais en termes de vie économique. Et donc, il classe l'environnement en trois catégories, celle où il y a plus que 5% de frontaliers, celle où il y a plus de 10% de frontaliers dans la population, et ceux où il y a plus de 15% de la population. Si on prend chacun de ces concepts simplifiés, on arrive à 1 300 000 là où il y a 15%, 2 millions et quelques là où il y a 10%, et si on prend les 5%, c'est-à-dire un rayonnement plus faible, on est largement au-delà des 2 millions d'habitants. Alors, mon propos, qui suis un politique, qui voit cela et qui voit le désir de ceux qui raisonnent à partir de l'économie luxembourgeoise et pas à partir d'une zone frontalière qui bénéficie de la prospérité du Luxembourg et qui espère continuer à en profiter. Mais donc, il dit, il faut faire quelque chose tous ensemble pour prévoir. Nous avons eu une réunion du Cercle européen la semaine dernière, ou il y a 10 jours, à Elle, où le président du Conseil économique et social du Luxembourg est venu faire lui aussi un exposé extrêmement fouillé et précis et évocateur, sur lequel je ne reviendrai pas. Mais il y a eu aussi une intervention du député européen Hansen qui a dit « Mais c'est très bien la prospérité qui nous vient de l'extérieur. Constatons que non seulement il y a des frontaliers qui viennent de notre région voisine, mais que maintenant on vient de toutes des régions beaucoup plus lointaines s'implanter dans les régions frontalières de Belgique. Et donc, est-ce que c'est comme ça qu'on va toujours pomper de plus en plus loin les capacités dont nous aurons besoin pour notre développement de plus en plus qualitatif à l'avenir? Et donc, il s'engage résolument dans l'idée, le gouvernement luxembourgeois doit innover, prendre un plan, c'est pour ça que je réfère au plan Vernet, prendre un plan qui va répondre aux besoins de l'avenir. Et donc, donc M. Hansen a dit, premier élément, la formation. La formation, la qualité, la compétence de nos habitants de notre aire métropolitaine. Et pas simplement aller pomper toujours des compétences de la main-d'œuvre ailleurs. Et donc, c'est d'autres sujets que ceux que l'on traite dans les rapports intercommunaux ou dans le sujet favori, qui est la mobilité et les encombrements. Il y a des sujets beaucoup plus fondamentaux, la recherche, l'enseignement, les qualifications futures, etc. Je me réfère encore à Pierre Werner en disant, mais il y a, dans les années 75, on a lancé, à la suite de la crise de la sidérurgie, et nous étions partenaires luxembourg-belge, luxembourgeois, il a lancé un plan de reconversion, on a lancé un plan formidable de reconversion dont nous tirons aujourd'hui les bénéfices. Mais on n'était pas dans les secteurs traditionnels, l'agriculture et la sidérurgie, on était dans l'espace, les satellites et toutes sortes de choses dans lesquelles on peut être ambitieux. Bon, donc soyons ambitieux. Et accueillons la suggestion qui nous vient de la place de Luxembourg dans un think tank qui est proche de la vie économique, de nous dire maintenant demandons au gouvernement luxembourgeois ou attendons du gouvernement luxembourgeois ou répondons positivement à une vraie discussion sur le développement futur de notre zone métropolitaine. J'ai 2 petites critiques à faire au plan de l'IDEA. La première, c'est que évidemment, il étudie toute la périphérie de Luxembourg, à l'est, au sud et à l'ouest. Mais si on veut discuter un plan, vous connaissez tous les freins institutionnels qu'il y a à discuter avec des pouvoirs qui sont loin, à Berlin ou à Paris, ou même à Bruxelles, et des structures administratives qui sont différentes en Allemagne, en France et en Belgique. Je dis, mais essayons, si nous sommes convaincus qu'il faut le faire, essayons là où c'est le mieux préparé. Où est-ce le mieux préparé? Mais c'est dans l'union économique belgo-luxembourgeoise qui existe depuis 100 ans, une union monétaire. On a redit, tout à l'heure, le ministre des Finances du Grand-Duché a redit quand, si le plan Werner a pu avancer si bien, si on a pu faire l'union monétaire, c'est parce qu'on avait déjà l'expérience de l'union monétaire plus petite entre nos deux pays, mais si on savait le faire à deux, on savait le faire à 15. Et donc, voilà l'idée. Donc, essayons là où c'est le plus facile. Et essayons, donc, si possible, avec nos régions. C'est pour ça qu'on est à Saint-Vite aujourd'hui. Et d'autre part, je perds mon fil, il faut, pour un co-développement, que ce ne soit pas un plan qui vienne du Luxembourg ou qui vienne des quatre pays, parce que ça prendra 20 ans à le mettre au pas, il faut que ça se passe avec des autorités administratives et politiques constituées au-delà des communes. Les communes, c'est très facile, elles ont leur autonomie, elles peuvent avancer, et M. de Meuser et Benelux fournissent un instrument accélérateur. IDEA fournit un autre élément accélérateur, et donc, ici, pour le Grand-Duché, si je le regarde de l'extérieur, qui est un pays en forte croissance avec 600 000 habitants, c'est plus facile de travailler avec sa périphérie proche, qui à la fois n'est pas beaucoup plus nombreuse en nombre d'habitants, mais qui a des autorités constituées, intercommunales, mais aussi des corps politiques, qui peuvent donner leur approbation à des idées. Les intercommunes peuvent collaborer sur le terrain. Mais les idées, il faut qu'elles passent. Et je pense que la présence d'une assemblée de la communauté germanophone ici, d'un conseil provincial et d'une intercommunale dans la province de Luxembourg, permet de mêler discussion politique et application administrative. Et donc, je veux simplement indiquer cela, et je pense que le Cercle Werner devrait pousser, avec l'approbation de ceux qui ont inspiré ce plan, pousser à aller vite dans ce domaine. Et comme j'ai fort envie d'entendre Mme de Taille, j'ai retenu une phrase dans ce que j'ai lu le dernier temps, dire « Le Luxembourg est le pays des circuits courts ». Alors je trouve que ça c'est formidable, moi je voudrais vivre dans une zone métropolitaine des circuits courts. Et je lui cède la parole.
On m'a demandé de parler aujourd'hui d'un titre que je vais lire fidèlement, même s'il manque un « i », mais c'est pas grave, « Les défis de la gestion des talents dans l'industrie luxembourgeoise ». J'ai envie de parler de beaucoup de choses en plus de ça. Après tout ce que j'ai déjà entendu, c'était vraiment fort intéressant. Mais je vais me concentrer sur le sujet. En fait, nous, industriels au Luxembourg, nous avons des concurrents partout. Nous avons des concurrents qui produisent des produits que nous essayons de vendre, mais nous avons aussi des concurrents qui essayent de nous prendre ce que l'on considère comme notre plus grande richesse, c'est-à-dire à notre personnel, nos collaborateurs. Au Luxembourg, il y a un secteur financier qui attire beaucoup de gens. Il attire des talents qui n'ont pas leur place dans l'industrie. Ils sont des financiers très pointus. On l'a dit tout à l'heure, la place de Luxembourg est devenue maintenant la première en Europe. Il y a là des gens dont vraiment la compétence n'a de valeur, et elle a une très grande valeur, et n'a de valeur que pour le marché bancaire et financier. Mais les banques attirent d'autres talents dont nous avons aussi besoin dans l'industrie, et nous sommes en concurrence avec eux, et jusqu'à aujourd'hui, il faut reconnaître que les banques payent mieux que l'industrie. Ça, c'est pour les concurrents, pour les travailleurs frontaliers. En ce qui concerne les résidents luxembourgeois, les banques ne sont pas notre plus gros concurrent. Le plus gros concurrent, c'est l'État et les communes. Alors ça fait un peu sourire quand on est belge et quand on est mandataire communal en Belgique de savoir qu'au Luxembourg, on paye très bien les fonctionnaires communaux et aussi les fonctionnaires d'État. Moi, je pense personnellement que c'est bien de payer les fonctionnaires convenablement, parce qu'un pays qui marche bien est un pays qui a une bonne fonction publique et un bon salaire est sûrement un élément d'attractivité. Mais en tant qu'industriel, c'est très, très embêtant de ne pas pouvoir être au même niveau. Ça va à un point tel que certains certains industriels dans la construction, par exemple, refusent d'engager des résidents. Ils cherchent un dessinateur industriel, ils disent « je ne prendrai pas un résident ». Pourquoi ? Mais parce qu'il va travailler chez moi 2 ans, 3 ans, je vais le former. Entre-temps, il passera un concours à l'État, il sera dans la réserve, et puis il va s'en aller. Et c'est un vrai problème, ce n'est pas anecdotique, c'est vraiment quelque chose qui est réel et important sur le marché du travail. Il y a aussi des caractéristiques et des contraintes qui sont spécifiques au talent. Il y a peu de profils seniors au Luxembourg, donc des gens vraiment qualifiés pour l'industrie. Donc on va les chercher ailleurs, dans les pays voisins, c'est ce qu'on a dit, mais on va beaucoup plus loin aussi maintenant. On va dans des pays très très lointains et les gens viennent soit résider au Luxembourg, soit résider dans les pays voisins, soit ils font du télétravail. Et c'est un aspect, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui, que je voudrais quand même évoquer. On parle beaucoup de télétravail, beaucoup de gens disent « je vais rester à la maison toute la semaine ». Dites-vous bien que pour la grande région, ça pourrait être un très grand danger si on arrivait à instaurer le télétravail pour tout le monde tout le temps au Luxembourg, parce qu'on travaillera aussi bien depuis Grenade, Bucarest, que depuis Saint-Ode, monsieur le bourgmestre, ou depuis Saint-Vite. Donc, faisons attention à la distanciation du lien avec le siège de l'industrie. On va sinon arriver à avoir des fournisseurs de travail qui travailleront sans doute aussi bien, mais qui n'auront plus ce lien avec le pays et qui deviendront des sous-traitants. Vous me direz, mais pourquoi est-ce que tous ces frontaliers continuent à faire la navette ? Parce que, franchement, ils se plaignent de passer des heures et des heures dans la voiture, mais qu'ils aillent habiter au Luxembourg. Alors, quand on connaît bien les Belges, on sait bien qu'ils ne vont jamais y aller, parce que les Belges, ils adorent leur région, ils adorent leur village. C'est particulièrement vrai dans cette région, mais c'est aussi très vrai à Liège. J'ai travaillé pendant quelques années à Bruxelles, et les trains qui viennent de Liège sont bondés de gens qui vont travailler à Bruxelles. Bon, voilà, c'est un choix de vie, c'est toute une vie sociale qui est très importante dans nos villes et nos villages. Donc, il y a très peu de chances que beaucoup de gens déménagent vers le Luxembourg. Si on ajoute le prix de l'immobilier qui, quand même, là-bas, est très, très élevé, et si on ajoute aussi que le Luxembourg est un pays qui a une culture très différente de ce qu'on connaît en Wallonie, encore plus dans la partie province du Luxembourg que sans doute ici. Donc, on va pas voir tellement les gens se rapprochaient, me semble-t-il, géographiquement de leur lieu de travail. Il faut aussi dire qu'il n'y a pas au Luxembourg, et je vois quelqu'un dans la salle qui va sûrement approuver, de vraie formation pour les profils techniques. Et donc nous essayons, mais c'est compliqué, de permettre qu'il y ait une équivalence de diplôme, une coopération plus grande entre les écoles techniques ou les centres techniques comme Technifutur, par exemple, que beaucoup de gens connaissent sûrement ici, et le Luxembourg. Mais même si c'est le pays des circuits courts, monsieur le ministre, de temps en temps, les circuits prennent du temps. Alors vous me direz, bon, c'est pas très grave finalement que les résidents ne veulent pas travailler puisqu'on est frontaliers. Oui, mais les frontaliers, à l'exception de ceux de cette région, n'ont pas les compétences linguistiques qu'ont les résidents. Et quand on est au Luxembourg, dans l'industrie, on exporte. Et quand on exporte, bah, on a des clients qui ont des langues d'usage différentes. Et c'est une des forces des résidents et une des faiblesses, à l'exception des gens qui viennent de l'Ostbelgien. La méconnaissance linguistique est vraiment un problème. Aujourd'hui, l'industrie a une très très mauvaise image chez les résidents luxembourgeois. Ils en sont restés à l'industrie qui pollue, l'industrie lourde, l'industrie où le travail est dur. Ça n'est plus vrai du tout. Aujourd'hui, il y a des usines qui n'ont pas de cheminée. Il y a des usines où la digitalisation, où la robotisation, où l'automatisation et où l'ergonomie de l'outil est telle que vraiment, il n'y a plus aucune difficulté physique à travailler. Et en plus, c'est un pays, et on peut s'en féliciter, où la santé des travailleurs est bien protégée, et toute l'industrie luxembourgeoise fait vraiment un gros effort. Mais ça n'est pas connu des résidents. Et on a vraiment un déficit d'image. Il faut aussi savoir que, comme la plupart des résidents travaillent dans le secteur public, ils n'ont plus de lien direct avec l'industrie. Il y a deux générations, tout le monde avait un oncle, un père, un frère qui travaillait à l'Arbet. Aujourd'hui, dans la famille, il y a au moins un membre qui est professeur, fonctionnaire ou qui travaille dans une commune. Donc le lien affectif n'est plus là avec l'industrie. Et c'est un problème aussi pour le recrutement. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est face à une situation comme celle-là? Au niveau de l'entreprise, on développe toute une série de méthodes managériales sur lesquelles je ne vais pas m'étendre parce que vous les connaissez, mais ça va de la flexibilisation du temps de travail en disant vous pouvez avoir à peu près les horaires que vous voulez, au développement de bureaux satellites. Et j'ai vu dans la carte que M. Lambotte a présentée toute une série de zones frontalières à l'intérieur du Luxembourg où je suis sûre qu'on retrouve des bureaux de grands cabinets de consultants, voire d'industrie qui se trouvent dans des communes pas tellement loin de Saint-Vith, mais des communes qui sont, pour des raisons fiscales, de l'autre côté de la frontière. Voilà, il y a aussi toute une... On suit vraiment et on chouchoute les gens dans les entreprises en leur donnant des formations, en essayant de répondre le mieux possible à leurs désirs parce qu'ils sont une denrée rare. Le secteur de l'industrie mène aussi des actions, mais on ne peut pas tous les matins être sur RT et aller dire « Vive l'industrie, c'est beau ». D'abord, ça nous coûterait trop cher et puis je crois que le deuxième jour, on fermerait le bouton. Donc, on a des initiatives vis-à-vis des jeunes dans les écoles. On a une action qui malheureusement pour le moment est un peu en sommeil, qui s'appelle Hello Future, et on va dans les écoles, dans différentes classes d'âge, avec des témoignages de jeunes qui sont dans nos industries et qui vont expliquer ce qu'ils y font et pourquoi ils sont contents. On a modernisé en faisant des escape games, des choses qui peuvent intéresser les jeunes qui ont entre 14 et 16 ans pour essayer de les diriger vers l'industrie ou en tout cas vers des études techniques ou scientifiques qui leur permettraient de venir travailler dans l'industrie. On fait aussi ce qu'on appelle un job shadow day, donc on invite des jeunes qui le souhaitent à suivre pendant une journée le patron de l'entreprise ou les responsables de différents secteurs. Et à chaque fois que qu'un jeune vient chez moi, on m'envoie souvent des filles, à la fin de la journée, je dis « Alors, comment c'était? Qu'est-ce qui vous a le plus plu ou déplu ?» Elle me dit « Ah, on ne savait pas que c'était sympa comme ça, mais c'est chouette l'industrie !» Et ils le disent vraiment, parce que je ne sais pas ce qu'on doit leur raconter, mais alors je me dis « Qu'est-ce qui était tellement chouette ?» Mais vous savez, les gens, ils ont dit bonjour, et puis ils m'ont bien expliqué ce qu'ils faisaient. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut raconter aux jeunes pour qu'ils aient une image tellement affreuse de ce qui se passe dans l'industrie. Mais en tout cas, on espère qu'avec des actions comme celle-là, on va finir par leur montrer, j'espère, que la vie dans l'industrie peut être aussi épanouissante. L'État aussi doit faire des choses. Je pense qu'il faudrait, on en a parlé tout à l'heure, quand même adapter sur le long terme des législations en matière de télétravail, même si je dis que ça n'est pas la panacée, mais ça fait partie en tout cas des solutions pour rendre les emplois plus attractifs. Donc l'État luxembourgeois, mais aussi les États voisins doivent se parler et mettre en place des règles qui vont permettre plus de souplesse pour les employés et les salariés. Je pense aussi qu'il faut absolument avoir un élargissement des profils techniques dans l'éducation au Luxembourg. Et, je l'ai dit tout à l'heure, essayer de trouver des coopérations dans la même idée que ce que le ministre Nothomb a dit, de coopération gagnant-gagnant pour les États qui fournissent de l'emploi dans l'industrie au Luxembourg et pour le Luxembourg lui-même. Et je pense aussi qu'il faut, si on veut garder des talents au Luxembourg, il faut qu'il y ait un attrait fiscal, parce qu'aujourd'hui, pour certains salariés qui ont charge de famille, ça n'est pas toujours tellement plus intéressant de travailler au Luxembourg que de travailler en Belgique. La grosse différence est dans la sécurité sociale et pas tellement dans le fisc. Et on a des simulations qui montrent, c'est pour la France, c'est très très clair qu'il vaut mieux, dans certains cas, travailler en France qu'au Luxembourg, compte tenu de l'évolution fiscale qui a lieu des deux côtés de la frontière. Et puis on dit qu'il y a pénurie, mais quand même, pour le moment, on vit au Luxembourg des troubles dans l'emploi. On a quand même de grands noms qui sont en train de fermer. Et là, je pense qu'on doit être beaucoup plus moderne et réfléchir autrement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On dit plan social. Et M. de Lacolette et les syndicalistes essayent d'avoir le plus possible d'argent pour les gens qui s'en vont, ce que je peux comprendre. Mais je ne suis pas sûre que avoir un gros pactole, parce que ça peut être beaucoup et ça permet à certaines personnes de vivre pendant 3 ans sans vraiment chercher autre chose parce que l'argent est là et parce qu'ils n'ont pas de besoin immédiat, je pense qu'il vaudrait mieux qu'ensemble on réfléchisse à comment faire pour que les gens qui sont en pleine force de l'âge puissent retrouver un travail, puisqu'il y en a du travail, qui soit au moins aussi intéressant pour eux. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut que l'entreprise qui ferme contribue moins, mais je dis juste qu'au lieu de donner de l'argent, on pourrait penser ensemble à donner une formation qui permettrait aux gens de se retrouver sur le marché du travail, parce que, quoi qu'on en dise, le travail, c'est non seulement la santé, mais c'est aussi pour beaucoup une condition nécessaire à l'équilibre dans une vie. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Bien, nous allons passer la parole maintenant à Christelle Châtelain, qui est donc à la tête des affaires économiques de la Chambre de commerce à Luxembourg. Elle a une particularité, c'est qu'elle est frontalière belge, et donc qu'elle réside même en province de Liège. Et je lui passe la parole, vu qu'elle va aborder le thème principal, je dirais, de cette conférence. Donc, quelle perspective économique à court et moyen terme au Grand-Duché de Luxembourg?
Merci beaucoup. En effet, ce n'est pas une petite tâche que l'on me donne aujourd'hui. À quoi ressemblera le Luxembourg dans 10 ans, donc à relativement court terme? Malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal, ce qui serait fort utile en cette période un peu perturbée. Et donc, si on veut savoir à quoi ressemblera le Luxembourg de demain, je pense qu'il est utile de revenir sur le Luxembourg d'hier et surtout le Luxembourg d'aujourd'hui. Par quelle étape est-il passé et surtout quels sont ses points forts actuellement? Parce que, comme je vais vous le montrer, de nombreux points forts du Luxembourg d'aujourd'hui seront peut-être les défis de demain, et je ne doute pas que ces points seront discutés plus après avec le panel. Slide suivant. Alors, le Luxembourg a connu une industrialisation massive dès la fin des années 1870. Un véritable décollage économique a eu lieu dans les années 1950, mais le Luxembourg a connu, comme la Belgique et d'autres pays européens, la crise de la sidérurgie. Et le Luxembourg s'est vite rendu compte qu'il ne fallait pas dépendre d'un seul secteur. Il a donc décidé de diversifier son économie. Donc, comme vous le voyez actuellement, l'industrie représente encore 6,5% de la valeur ajoutée, mais les services représentent 88% du PIB actuellement. Alors, vous pourriez me dire, oui, on est passé d'une économie fortement spécialisée dans l'industrie à une économie fortement spécialisée dans les services. Est-ce que c'est mieux ? Slide suivant. Mais si on regarde au niveau des services, on voit qu'il y a une grande diversité au niveau des différents services. Donc les services financiers, qui sont souvent mis en évidence pour le Luxembourg, représentent environ 27% de la valeur ajoutée. Cette diversification au sein des services, mais également au sein de l'économie globale, permet au pays de mieux aussi passer les différentes crises. On l'a vu lors de la précédente crise financière, le Luxembourg a pu mieux être résilient par rapport à d'autres pays, simplement grâce à cette diversité et également cette diversité au sein des services financiers. Slide suivant. Alors pourquoi cette diversité, d'avoir une économie diversifiée est si important? Je vous l'ai dit, pour mieux faire face à des crises qui touchent en particulier un seul secteur, mais on voit également ici que les contributions à l'emploi et au PIB des différents secteurs ne sont pas les mêmes. Vous allez voir qu'au niveau de l'industrie, l'industrie représente peut-être 6% du PIB, mais représente près de 9% des emplois. Quant aux services financiers que je viens de vous citer, c'est en effet 27% du PIB, mais c'est seulement 11% des emplois. Ça montre bien donc que le Luxembourg a besoin d'une industrie forte, et qu'il faut continuer à attirer sur le sol luxembourgeois de nouvelles industries pour le futur. Slide suivant. Alors, je vous l'ai dit, l'économie luxembourgeoise est relativement diversifiée. On peut aussi dire qu'elle est relativement dynamique. Vous voyez ici l'évolution de la croissance du PIB du Luxembourg. Elle est relativement plus importante que certains pays frontaliers ou proches autres voisins. Mais cette croissance dynamique, elle est également à double tranchant, parce que le Luxembourg en a besoin de cette croissance. Il va donc devoir continuer à générer une croissance économique s'il veut notamment pouvoir continuer à générer des recettes fiscales qui vont pouvoir, par exemple, alimenter un système de pension ou de sécurité sociale qui est qualifié d'assez généreux. Quand je parle de pression, c'est également parce que la croissance économique est encore, au Luxembourg, une croissance très extensive. On a parlé tout à l'heure d'une croissance plus qualitative. Pour l'instant, la croissance luxembourgeoise, elle se base sur toujours plus de main-d'œuvre qui vient sur le territoire, la consommation de toujours plus de ressources, et on voit bien qu'on arrive à des pressions qui ne sont plus soutenables en termes environnementaux, en termes de mobilité, en termes notamment d'infrastructures. Donc, cette croissance économique, il faudra peut-être la repenser, surtout pas, je ne dis surtout pas qu'il ne faut pas de croissance, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais une croissance davantage qualitative avec une hausse plutôt de la productivité. Slide suivant. Alors, le Luxembourg est également une économie très ouverte. Ça lui permet donc d'exporter ses biens et ses services. Près de 60% des biens et services sont exportés. Vu la taille de son marché intérieur, le Luxembourg a besoin de ses partenaires internationaux. Mais ça rend également le pays dépendant à des décisions qui sont prises en dehors de ses frontières nationales. Des décisions européennes, notamment, impactent directement l'économie luxembourgeoise et donc également ses activités. Slide suivant. On a déjà parlé de la position centrale du Luxembourg au sein de la grande région, donc je pense que je vais passer... S'il vous plaît. Voilà. La population qui ne cesse de croître, là aussi, on l'a déjà évoqué. On est donc aujourd'hui en 2020 à environ près de 630 000 luxembourgeois. Et on parle même d'atteindre 1 million d'habitants en 2060. Vu la taille du pays, là aussi, cela risque de poser un grand nombre de défis en termes de mobilité, qui est déjà largement saturé actuellement, en termes d'infrastructures et en termes surtout de logements. Slide suivant. Actuellement, donc, on a déjà évoqué également ce point, près de 48% des résidents n'ont pas la nationalité luxembourgeoise, et à terme, cela risque aussi de poser des problèmes en termes de représentativité. Au Luxembourg, le droit de vote aux élections législatives n'est accordé qu'aux personnes qui ont la nationalité luxembourgeoise. On voit donc qu'actuellement, nous avons environ 48% de la population qui vote, 52%, pardon. De la population qui vote. Ça pourrait donc, à terme, également poser un défi pour le Luxembourg. Slide suivant. Le marché du travail est également relativement atypique, vu que on a 74% des salariés qui n'ont pas la nationalité luxembourgeoise. Ça pose donc des défis, là également, en termes de mobilité, parce que les frontaliers, il faut les amener sur le lieu de travail tous les jours. Et également, ça nécessite de renforcer les coopérations dont on a parlé en termes de grandes régions et de Grand Luxembourg. On voit ici l'importance que cela peut avoir. Slide suivant. Alors, une cinquième caractéristique du Luxembourg actuellement, c'est qu'il a une certaine compétitivité fiscale. Alors, lorsque vous voyez ici le taux, qui est le taux à l'affiche, donc qui n'est pas nécessairement le taux effectif, il y a bien sûr des déductions, mais le taux à l'affiche reste dans la moyenne des pays de l'Union européenne. Donc, on est loin d'être un pays où il n'y a pas de taxation, comme c'est souvent dit, notamment dans les médias. On est même très loin, par exemple, de l'Irlande en taux d'impôt sur le revenu des collectivités. Mais cette compétitivité fiscale, il va aussi falloir la maintenir. Comme je vous l'ai dit, de nombreuses décisions sont prises au niveau européen. Le Luxembourg ne peut que les appliquer. Et là aussi, l'avenir nous dira si ces décisions permettent au Luxembourg de continuer d'attirer sur son sol de nombreuses entreprises. Slide suivant. Merci. En ce qui concerne les finances publiques du Luxembourg sont encore relativement saines. Vous voyez ici qu'on a un taux de dette publique qui est de 22%. Je crois que ça ne ferait pas lire d'envie peut-être la Belgique. Mais il y a également de nombreux défis pour les finances publiques du Luxembourg. Je pense que la crise du Covid va aussi nous montrer qu'il y a moins de recettes. Il y aura davantage de dépenses. Donc cette dette risque à un moment ou à un autre d'augmenter. La crise, mais également d'autres défis, vont nécessiter un grand nombre d'investissements si le Luxembourg veut conserver ses avantages comparatifs. Et la sécurité sociale risque aussi également d'être un défi pour le Luxembourg. C'est un des pays où le vieillissement de la population sera le plus important dans les années à venir. Et donc, les dépenses en termes de soins de santé et de pension seront toujours plus importantes. Merci. Alors, le Luxembourg a une grande expertise dans certains secteurs, mais les réglementations internationales et européennes viennent aussi mettre une pression sur ces derniers, donc que ce soit au niveau du secteur financier, slide suivant, mais également autour de l'industrie. Je pense que Madame de Taille a déjà cité pas mal de ces défis, notamment en termes d'attraction des talents, mais de nombreuses contraintes, notamment en termes d'environnement, pèsent sur l'industrie actuellement, et elle va devoir également se réinventer si elle veut rester un fleuron de l'économie luxembourgeoise. On a une diversification, donc déjà actuellement, je vous en ai parlé via les technologies de l'information et de la communication, mais là aussi, cela demande des infrastructures et des investissements continus si on veut rester à la tête. Slide suivant. Et le Luxembourg a également développé son secteur logistique comme un des 5 secteurs de diversification. Et comme vous le voyez, Luxair Cargo est à 12 heures de conduite de 70% de l'économie européenne. Et on voit donc la position centrale du Luxembourg et les atouts qu'elle peut jouer. C'est la suivante. Alors, le Luxembourg soutient ses start-up et les PME, mais également via, par exemple, des incubateurs ou ce qu'on appelle les house, qui permettent de donner tout un nombre de services pour soutenir le développement des entreprises au Luxembourg. Slide suivant. Et la recherche, on l'a déjà évoqué également, doit être au centre des activités, et les dépenses publiques qui présentaient un certain retard ont été multipliées par 10 depuis les années 2000. En bref, Merci. On peut dire qu'actuellement, le Luxembourg est un environnement propice aux affaires, mais est-ce qu'il pourra continuer à maintenir l'ensemble de ses avantages comparatifs ? Slide suivant. Alors, si vous me demandez quels sont les grands défis de demain, je vous en ai déjà cité un certain nombre. Maintenir et renforcer la compétitivité des entreprises. On voit que les entreprises sont actuellement de plus en plus soumises à des contraintes, notamment internationales. Et la compétitivité des entreprises et du Luxembourg est en dégradation. Les défis démographiques, je les ai évoqués également. Les dépenses de santé, mais surtout également les dépenses en termes de pension. Maintenir la paix sociale, donc continuer cette discussion, notamment tripartite, qui ont aussi fait le succès du Luxembourg. Maintenir un cadre législatif et fiscal attractif, notamment en termes de simplification administrative. Ça reste également un grand défi pour le Luxembourg. On voit qu'il y a encore trop de démarches à faire pour de simples demandes. Et le Luxembourg doit rester attractif pour les décideurs, mais également pour les investisseurs étrangers. On va donc devoir renforcer les points forts d'aujourd'hui, mais également stimuler... Oui, merci. Mais également stimuler les niches de compétences de demain. Donc ce sont les niches de compétences, les secteurs sur lesquels le gouvernement veut miser pour recréer cette recette qui avait si bien marché, notamment dans les années 1980, pour donner au Luxembourg une croissance forte. On peut continuer ? Alors, le pays n'a pas attendu d'être face au mur pour agir. Il y a donc eu une grande étude qui a été menée à partir de 2016 et donc qui est intitulée « Troisième révolution industrielle », qui était une étude de Jérémy Rifkin qui avait pour but de construire une société numérique intelligente et durable. Et là, c'était un partenariat inédit entre le gouvernement, les entreprises, pour justement créer ce Luxembourg de demain. Je pense que la digitalisation sera un des nerfs de la guerre de demain. On en a parlé pour le télétravail. Au Luxembourg, il y a encore des efforts à faire en termes de digitalisation. On a une forte orientation vers les services, ce qui rend la digitalisation plus propice. On a un recours élevé à la main-d'œuvre frontalière. On a déjà parlé du télétravail. On peut passer au suivant. Mais il y a de nombreux défis. On a tout ce qui concerne les mécanismes fiscaux, notamment, ne sont pas faits pour, justement, notamment du télétravail. On a une montée du modèle du travailleur indépendant et donc ça pose également des questions en termes de sécurité sociale. Et également l'équilibre en ce qui concerne la protection des données et également les nouvelles formes de travail et la frontière entre vie privée et vie professionnelle. Alors, on a également, M. Hussain avait déjà également abordé cette robotisation, cette numérisation qui fait parfois peur. On voit qu'au Luxembourg, ça a également fait l'objet d'une étude et on n'est pas encore arrivé au point où les robots vont remplacer l'ensemble des travailleurs et des frontaliers. Et on voit même que, vu la nature des jobs au Luxembourg, ça pourrait venir plutôt soutenir l'emploi plutôt que de le détruire. On aura donc plutôt une adaptation des jobs plutôt qu'une disparition pure et simple de nombreux emplois. Alors, le Covid, ça a marqué un coup d'arrêt macroéconomique. Ici, on a parlé des chiffres tout à l'heure. Ils sont encore fort instables parce qu'ils changent encore de jour en jour. Selon les dernières prévisions de la Commission européenne, on serait à moins 6% de PIB en 2020. On aura un rebond assez mécanique en 2021. On voit en effet que le Luxembourg se porte vraiment pas plus mal que ces pays frontaliers ou d'autres pays européens. Alors, est-ce que le Covid marque juste un coup d'arrêt macroéconomique ou est-ce qu'il va également marquer un coup d'arrêt au niveau des tendances ? Slide, merci. Est-ce que ça va provoquer de réels changements sur la trajectoire? Je ne pense pas. Il y a une véritable volonté de relance, en tout cas déjà maintenant, même si malheureusement il y a encore beaucoup d'entreprises qui souffrent de la situation actuelle. On ne peut pas dire qu'on est sorti totalement de cette crise. On a une volonté de relance via ce que l'on appelle donc les niches de croissance et ces transitions que je vous ai déjà citées. Les 5 secteurs prioritaires et la RDI devront être au centre de la relance. On a également vu l'importance du secteur de la santé durant cette crise. Et donc, pourquoi ne pas créer au Luxembourg une sorte de Medical Valley autour de clusters? Par exemple, BioHealth Cluster qui existe déjà, mais il n'existe par exemple pas de faculté de médecine au Luxembourg. Alors pourquoi ne pas en créer une et créer une véritable vallée médicale au Luxembourg? Je vous ai parlé de la troisième révolution industrielle et de l'impact sur les infrastructures de demain, les énergies renouvelables, l'économie circulaire, la silver economy, donc l'économie liée au vieillissement de la population, seront aussi des secteurs très porteurs. L'upskilling et le reskilling de la main-d'œuvre. On a parlé avec Madame de Taille de l'importance de cette main-d'œuvre et il faudra toujours la garder up-to-date. Et donc, quand l'on voit les évolutions, notamment en termes de digitalisation, la formation sera donc ici des plus importantes. On a parlé du boom du télétravail, mais quel impact également sur la structure économique? On voit qu'en moyenne, au Luxembourg, un travailleur dépense 40 euros par jour dans les secteurs de l'horeca et du commerce. Si ces personnes travaillent à la maison, ça aura un impact fort important sur ces commerces. Et donc, là aussi, ça nécessite une réflexion plus globale. Je vous ai parlé du Luxembourg à 1 million d'habitants avec des défis en termes d'infrastructures qui sont indéniables. L'accélération... Non, je n'ai pas fini. Merci. L'accélération de la digitalisation sera fort importante au sein des entreprises, mais également et au sein de l'État. On a encore trop souvent une numérisation plutôt qu'une vraie digitalisation. Il y a très peu de processus qui peuvent se faire de A à Z via simplement un site Internet. On doit encore trop souvent imprimer un document, le remplir à la main, le scanner et le renvoyer. Et là, on ne peut pas parler de digitalisation. Les principes aussi de Only Once, donc une fois que vous avez donné une information à une administration, que vous ne deviez pas rendre cette information 5 fois, mais simplement qu'elle puisse être échangée. Certaines réformes deviennent urgentes. Je vous en ai parlé en termes de pension et de sécurité sociale. Slide suivant et le dernier. Alors, si vous me demandez à quoi ressemblera le Luxembourg dans 10 ans, il aura 750 000 habitants. Je pense que c'est un fait qu'il ne faut pas négliger. L'économie sera et devra être encore davantage diversifiée. Il y aura encore des interconnexions plus importantes avec la grande région. De mauvais élèves, on passera à leader de la performance environnementale et le pays sera transformé car il va devoir répondre aux défis du logement et des infrastructures et sa place financière aura bien sûr survécu aux surréglementations et sera encore plus forte. Merci beaucoup.